Vous allez entendre un message de William Branham intitulé « La vie éternelle et comment la recevoir » prêché à Jeffersonville, Indiana, USA, le 31 décembre 1954. Ici ce soir, pour entendre ces témoignages et les différentes expressions d'action de grâce envers Dieu, pour ce qu'il a été pour eux durant cette année qui se termine, je veux joindre mon témoignage au leur. Je pensais aux les sœurs là-bas témoignant du pain à la surface des eaux, et alors frère Slaughter, frère Graham, prêchant lorsque les roues de la vie mortelle se seront toutes arrêtées. Peut-être mal compris ici, mais là-bas devant le trône, Dieu connaît tout de toutes choses. Ainsi nous sommes ici ce soir juste pour, je ne crois pas qu'on puisse dire tourner une nouvelle page ou quelque chose comme cela, que vous tourniez simplement au jour suivant. Mais si nous venions et nous nous donnions à Dieu comme adoration et le remercions pour ce qu'il a été pour nous et lui demander de continuer d'être avec nous, ce serait peut-être ce qui serait le mieux. Je suis seulement un peu fatigué ce soir. J'ai eu quelques personnes hier soir de la compagnie et je suis resté éveillé un peu trop longtemps. Et aujourd'hui nous sommes sortis pratiquement toute la journée, ainsi je me sens juste un peu fatigué et je ne resterai pas ici très longtemps. Mais je voudrais donner ma place à frère Funk. Il sera notre orateur et alors viendra frère Woods, je crois, après lui. Et alors il a dit aujourd'hui, s'ils veulent tous rester... Je ne devais pas dire cela, mais vous voyez, je l'ai fait. Aussi, je vois le frère Funk assis là, secouant la tête. C'est une petite blague entre lui et moi, frère. Eh, mais c'est vrai, ils ont le privilège de continuer maintenant dans quelques minutes. Et ainsi, nous avons plusieurs orateurs ici ce soir. Vous savez, aussi, il nous reste 3 heures et nous allons essayer de nous presser aussi vite que nous le pouvons. Et quelquefois, une seule petite chose que je voudrais dire présentement. C'est au sujet du témoignage de cette sœur-là, sœur Leopold, je crois que c'est son nom. J'ai comme fait un nouvel ordre ici, comme vous le savez, il y a quelques semaines, ou environ au sujet des gens qui appellent le bureau. Et alors, frère Cox et les autres vont me démontrer le cas, quel qu'il soit, et me laisser faire comme je l'entends. Et oh, c'est la manière de procéder. Alors l'autre matin, regardant différents appels, je vis que le garçon de sœur Lake avait eu un accident. Je crois que frère Cox m'a dit que c'était cela. Frère Cox, et ils étaient dans une grande tristesse, il était presque à la mort. Et un autre frère avec lequel j'ai été à la montagne cette année dans un voyage, il avait une hémorragie aux intestins, peut-être un cancer. Et en Californie et partout, différentes personnes qui étaient malades. Et j'avais été prié. Et j'entre et ma femme m'avait dit que frère Slaughter avait appelé quelque chose au sujet d'un petit ou sœur Slaughter, l'un ou l'autre au sujet d'une petite fille qui était ici l'autre dimanche. Je suis entré, je me suis assis, j'ai pensé, bien, cher Dieu, j'ai toutes ces choses et je priais pour eux tous. Que veux-tu que je fasse? J'entendais toujours quelque chose au sujet d'un petit bébé. Bien, je suis retourné voir ce que nous avions au sujet d'un petit bébé. J'ai appelé sœur Cox pour savoir s'il y avait quelque chose au sujet d'un petit bébé. Personne ne semblait savoir rien au sujet d'un petit bébé. Ce n'était pas une vision, juste une pression par l'esprit d'aller à un petit bébé, au sujet d'un petit bébé malade. Eh bien, la seule chose que je pouvais trouver prête ou proche, c'était ce bébé. Bien, la seule chose dont on parlait de là-bas au Kentucky... Bien, il ne me semblait pas que c'était lui lorsqu'on me l'a mentionné. Cela ne s'enregistrait pas correctement de toute manière. Je pensais peut-être qu'une vision viendrait un peu plus tard. Mais ce n'était pas cela. Ça ne tourna pas à la vision. Je continuais à me questionner. Je suis retourné seul dans ma chambre pour prier et j'ai pensé, qu'en est-il de ce bébé maintenant? Y a-t-il quelque part un bébé auquel je devrais penser? Et dimanche il y a une semaine, quelque chose comme cela, j'étais assis là. Et une petite fille vint et murmura à mon oreille derrière moi. Elle dit, « Priez pour ma petite sœur, mon bébé sœur. » Et c'était la petite fille des Léopards. Elle est peut-être ici ce soir, je ne sais pas. C'est un tout petit bout de fille, très jolie, une petite fille. Et je me suis tourné juste à ce moment. Je dis, c'est très bien, chérie, comme cela. Et j'inclinais la tête et me mis à prier pour le bébé. Et j'ai continué, j'ai oublié cela. Et juste comme cela vient à mon esprit, quelque chose arrive, et je savais alors que c'était Dieu. Aussi alors, je suis allé, j'ai demandé à Meda où ils habitaient. Elle ne le savait pas exactement. Alors nous avons regardé dans le bottin téléphonique et avons pris leur numéro. Et je dis, quelque chose, leur bébé est malade, je crois. Ou il y a une semaine, ou quelque chose, une semaine, ou il y a 10 jours, leur bébé était malade. Je dis, il y a quelque chose à ce sujet. Maintenant, surveillez. Je les ai appelés et pas de réponse. Bien, alors, j'ai rappelé Madame Cox et j'eus la dame. Et elle est ici, sa mère. Et ainsi, j'appelais sa mère et elle me dit, eh bien, pourquoi? Je lui expliquais ce que c'était. Elle est peut-être ici ce soir. Je regrette, je ne connais pas, je ne reconnais pas la dame. Il se peut que je la connaisse si je voyais son visage. Mais elle me dit que le bébé était à l'hôpital, très mal. Ils étaient à lui donner une transfusion à ce moment-là. Eh bien, je dis, sœur, je ne sais pas. Je ne peux dire si c'est une vision, parce que ce n'est pas... C'est simplement que je ne puis voir clairement. Cela me cause une pression, me pousse vers ce bébé. Je pourrais seulement... Il me semble ce bébé est constamment devant moi. Ainsi, j'ai continué. Et je dis, je n'irai pas maintenant, car je sais que cela prend un certain temps pour une transfusion. Et il la donne dans la tête ici. Frère Branham montre le haut de son front, note de l'éditeur. Je pense, hein, ainsi, je sais que c'est très douloureux et difficile. Ainsi, j'attendis, j'entrais, priais pour le bébé. Je me préparais, je pensais, c'est l'endroit où le Seigneur me guide. Et je me suis précipité vers l'hôpital, et j'ai demandé à voir le bébé, et il me dit où était le bébé. Dans la chambre, j'ai rencontré la mère. Elle est assise ici présentement. Elle me dit que sa mère l'avait rejointe environ 1 heure avant cela, ou quelque chose comme cela. Et lui avait dit que le Seigneur faisait pression sur moi pour que j'aille voir ce bébé. Et lorsqu'elle retourna au lit, le bébé était couché là, gesticulant, gazouillant et riant. Ainsi je suis entré, et le petit bébé gesticulait, riait et buvait son biberon, et tout aussi normal que n'importe quel autre bébé que vous puissiez voir dans votre vie. Et j'ai simplement posé mes mains sur ce petit bout de fille, et je l'ai béni. Puis je suis sorti de l'édifice. J'ai entendu sa maman dire il y a un moment qu'il l'avait ramené à la maison. Ainsi c'est hier que cela est arrivé. Et aujourd'hui le bébé est à la maison et en bonne santé. C'est mieux que si je faisais sans intervention par moi-même. Être à l'écoute du Seigneur afin qu'il puisse vous dire où aller et que chaque fois ce soit parfait. Voyez-vous, c'est le Seigneur qui dirige. Maintenant, quelqu'un dit, venez ici, frère Branham, allez là. Et vous devenez tellement occupé à celui-ci, celui-là ou un autre, que Dieu ne peut plus vous parler. Si vous restez tranquille et disiez simplement merci, et mettre cela devant le Seigneur, et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse à ce sujet? Maintenant, tu sais, je suis ton serviteur. Que veux-tu? Mais voyez, le Seigneur sait que je vais y aller aussitôt, qu'il va parler à mon cœur. Il guérit le bébé avant même que j'arrive sur les lieux. C'est vrai, voyez-vous? Oui, monsieur. Vous voyez, ce n'était pas parce que j'y suis allé. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que c'était, frère Branham? Vous voyez, dans le corps de Christ, nous avons des dons. Et le Saint-Esprit lui-même me poussait à aller voir ce bébé. Et aussitôt que j'ai prié pour ce bébé, même chez moi, je suis allé à son chevet pour accomplir ce qu'il a dit, le Saint-Esprit intercédant là sur des choses que nous ne pouvons comprendre. Voyez-vous, n'est-il pas merveilleux? Je vous dis, mes amis, ce soir, j'ai tellement de choses pour lesquelles je peux seulement être reconnaissant. Je ne sais vraiment pas où commencer. Je n'essayerai même pas. J'en ai, je ne sais pas. Je vais lire quelques mots ici dans les Écritures et parler sur cela pendant quelques minutes, Dieu voulant. Mais premièrement, je veux exprimer ma reconnaissance à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui m'a sauvé et m'a lavé dans son propre sang. Il m'a donné cette grande et glorieuse espérance qu'un de ces jours, je le verrai face à face. Et je ne me tiendrai pas là, sous la condamnation, parce que son sang m'a déjà racheté. Je suis racheté ce soir par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il m'a donné d'être citoyen du même royaume vers lequel vous vous en allez tous et dont ensemble nous sommes héritiers avec lui dans la gloire. C'est une chose tellement merveilleuse. J'étais assis hier soir conversant avec quelqu'un qui est présentement ici Et aujourd'hui, là-bas, en bas, à Élisabeth, j'étais assis à la table d'un frère au dîner. Nous parlions des faits fondamentaux ou de l'évangile fondamental que nous avons et de sa réalité à l'ombre de tout doute. Nous n'avons aucune possibilité pour le doute. Ce tabernacle et les gens, ses membres et les gens de Jeffersonville et des environs se tiendront au jugement. Si nous ne sommes pas sauvés, nous n'aurons absolument aucune excuse. Il y a quelque temps, comme jeune ministre, lors de mon premier réveil que j'ai eu dans une tente ici sur le coin de la rue où ce bâtiment s'élève, j'étais à la rivière et je baptisais un certain groupe en après-midi de ce dimanche-là. L'ange du Seigneur fit sa première apparition en public dans une justification du message que j'apporterai. Et ce fut une lumière qui descendit du ciel et se tint là. Il y a peut-être des gens dans le tabernacle ce soir qui ont vu cette lumière. Et je commençais à le dire, et ainsi de suite. Et vous connaissez tous cette histoire et sa progression. Et certaines personnes vont s'en aller quelquefois et dire, ce n'est que de l'imagination. Ils laisseront une réunion où d'autres personnes le verraient et partiront en disant, je l'ai vu. D'autres disent, bien, je ne l'ai pas vu. Maintenant, naturellement, Dieu ne se montre qu'à ceux par qui il veut être vu. Quand les hommes sages, les mages suivirent l'étoile, il n'y a pas une parcelle de l'histoire, aucun observatoire ou autre. Ils suivaient le temps alors par les étoiles, mais aucun ne vit cette étoile. Mais les sages la virent, c'est vrai, car ils la cherchaient. Ils s'attendaient à la voir et elle les a guidés jusqu'à Christ. Et en plus, elle passa au-dessus de tous les observatoires. Cependant, les gens regardaient le ciel pour prédire les temps et autres. Mais personne ne la vit passer si ce n'est les mages, car elle était là spécialement à leur intention pour qu'ils la voient. Si Dieu a l'intention de vous montrer quelque chose, vous allez le voir. Élie, lorsqu'il se tenait à Dothan cette fois-là, regardant tout autour, le serviteur regarda et dit, « Oh, regarde cela !» Les Assyriens étaient campés alentour. Et Élie dit, « Qu'y a-t-il ? Il y en a plus avec nous qu'avec eux !» Il regarda alentour et ne vit qu'Élie se tenant là. Il dit, « Dieu, ouvre les yeux de ce jeune homme, Seigneur !» Et lorsqu'avec les mêmes yeux, seulement des yeux qui voyaient, quand il les ouvrit, autour du prophète, il y avait une multitude de chariots de feu et de chevaux de feu. Voyez, c'est quelque part. Nous savons que sa présence est avec ses enfants qui croient. Je parlais, ma femme était assise dans la pièce et nous parlions de cette même lumière. Elle vint et sa photo fut prise. En me remémorant ce phénomène ce soir, je crois qu'au moins deux ou trois personnes qui sont ici ce soir étaient là. David, au fond, frère Woods et sœur Woods étaient à Houston, Texas, lorsque Dieu permit que la photo soit prise. Maintenant, si vous vous teniez là ce soir et regardiez cet ange tourner en rond, beaucoup d'entre vous ici, peut-être n'ont jamais vu cela, mais vous voyez cette lumière, une colonne de feu qui guida les enfants d'Israël. Elle va rejoindre Pierre dans la cellule de sa prison et le délivra, le même ange du Seigneur. Et la voilà de nouveau ici, après ces centaines, oui, ces milliers d'années, elle est au milieu de nous encore maintenant. Voyez-vous ? Et sa photo fut prise, se tenant près de moi. Maintenant, non pas pour moi, mais pour l'Église, pour le corps des croyants. Vous voyez, c'est pour tous et chacun. Je crois actuellement que c'était cette colonne de feu qui guida les enfants d'Israël. Croyez-vous cela ? La congrégation dit « Amen », note de l'éditeur. Juste une colonne de feu. Et actuellement, je crois que cette lumière se rendit auprès de Pierre dans sa prison. Ne croyez-vous pas ce témoignage ? La congrégation dit « Amen », note de l'éditeur. Je le crois de tout mon cœur, encore plus que je crois que mon nom est William Branham. Je crois cela, voyez-vous, je crois cette histoire. Mais nous avons une preuve fondamentale, encore plus irréfutable que cela. Nous l'avons, nous en avons la preuve plus fondamentale encore. Maintenant, je crois cela par la foi. Et qu'en serait-il si l'ange du Seigneur se tenait ici maintenant, volant en rond et permettrait à chacun de vous de le voir, de ses yeux? Cela serait assez bon. Mais regardez à la photo de cela est encore une plus grande preuve que si vous pouviez le voir vous-même, voyez-vous, n'est-ce pas vrai? Car vous pourriez avoir une illusion d'optique, mais cette caméra ne prendra pas l'illusion d'optique. Elle ne le fera pas, parce que c'est une caméra. Elle ne prendra que la photo réelle. Ça se doit d'être là pour que la lentille le prenne, voyez-vous? Vous pouvez avoir une illusion d'optique ou quelque chose semble être là lorsqu'elle n'y est pas, voyez-vous? Mais lorsque la photo est prise, et cela pourrait être psychologique, vous pouvez dire, voyez-vous cette chose-là? Et vous, vous répétez, oui, je le crois. Et vous le croyez tellement que finalement vous pensez que vous l'avez vu, quand vous ne l'avez pas vu. Voyez-vous? C'est vrai. Ce n'est que de la psychologie. Mais vous, cela vous a pris tellement mentalement jusqu'à ce que vous vous l'imaginiez et l'imaginiez tellement qu'elle devient une réalité pour vous. Imaginez-vous simplement que quelqu'un vous déteste une fois. Et il ne vous déteste pas, mais vous vous imaginez cela et vous passez votre temps à penser « il ne m'aime pas ». Et la première chose que vous savez, vous fuyez cette personne. Ils ne vous ont rien fait. Et après un certain temps, ça devient une réalité pour vous jusqu'à devenir actuellement certain qu'il ne vous aime pas. Par exemple, votre femme ou votre mari, votre voisin ou un autre, quand la personne est complètement innocente de toute mauvaise chose envers vous, ce n'est que parce que vous vous imaginez quelque chose jusqu'à ce que cela devienne une réalité pour vous. Maintenant, voyez-vous ce que je veux dire? Mais actuellement, quand une photographie est prise, la chose se doit d'être là. Ainsi ce soir, comme frère Graham l'a exprimé il y a un moment, nous sommes passés à travers les hauts et les bas de l'Église, et ainsi de suite. Nous sommes passés à travers plusieurs dangers, peines et pièges. Nous avons été classés comme indifférents, comme holy rollers, fanatiques et toutes sortes de noms et autres comme cela. Mais encore au milieu de tout cela, si ce tabernacle était brûlé ce soir et que je mourrais et que vous tous partiez aussi, notre témoignage est absolument la vérité. Il y a des millions de gens qui en ont entendu parler et la preuve scientifique démontre non seulement notre parole, ce que nous avons dit avant que la lumière, avant que l'ange ne fût photographié. Ce fut témoigné depuis l'enfance que cette lumière viendrait. Il y a plusieurs années, plusieurs d'entre vous m'en ont entendu parler. Vous en avez été informés plusieurs années avant que cette photo ne soit prise. Lorsque le monde scientifique en eut pris l'image, c'était la même chose dont nous avions témoigné. Ainsi, cela démontre que vous avez dit la vérité. C'est absolument la vérité. Aussi ce soir, je suis reconnaissant de connaître le grand Jéhovah Dieu qui s'éleva du mont Sinaï, se tint une fois sur la montagne et enseigna les béatitudes, et ressuscita des morts, est au milieu de nous ce soir, et qu'il est le même. Comme il était alors, il est aujourd'hui et sera toujours. Et de penser que lui, le Dieu du ciel, s'humilierait jusqu'à descendre et s'associer avec moi et nous tous ici, de pauvres gens, pas meilleurs que les autres de ce monde, juste aussi illettré, et encore, il m'a tellement aimé, il est descendu et m'a sauvé par sa grâce. Je ne méritais rien, je ne pouvais rien faire, mais il m'a sauvé, parce que avant la fondation du monde, il m'avait prédestiné à être sauvé, dans son omniscience, avant le commencement du monde. Et tout autre homme qui est sauvé, il a fait la même chose pour lui. Oh, quelle chose merveilleuse! Oh, quelle opportunité pour nous tous! Le plus grand désir de mon cœur pour cette année, si Dieu veut entendre ma prière, il se peut que ce soir je ne puisse rester jusqu'à minuit. J'ai deux petites filles là-bas en arrière qui, lorsqu'elles deviennent fatiguées, commencent à geindre et à pleurnicher. Je devrais peut-être les sortir pour commencer. Je veux vous dire ceci, si je n'ai pas la chance de remonter et de témoigner, je vous remercie tous et chacun d'avoir prié pour moi cette année. Si jamais vous m'abandonnez, je suis fini. C'est par vos prières que je me tiens là. C'est par cela que je puis aller combattre. Je vous aime, comme un frère l'a déjà dit il y a un moment, de tout mon cœur. Je ne viens pas ici aussi souvent que je le voudrais. Je ne vois pas assez les gens et je ne pratique pas mon ministère à la maison comme j'aimerais le faire selon mon cœur. Mais je ne suis qu'un être humain. Et je suis très limité à certaines heures, à certaines forces et tout le reste. Maintenant, avec l'aide de Dieu, s'il veut bien m'aider, Je veux que cette année soit la plus grande année de ma vie. Par la grâce de Dieu, j'ai gagné à Christ plus d'un demi-million d'âmes. J'espère cette année compléter le million, si Dieu le veut. Car Dieu voulant, je veux recommencer mon périple dans les pays étrangers, aussitôt que nous serons prêts financièrement et le reste, dès que nous en serons capables. Se rendre dans ces autres pays là-bas, là où nous en gagnons plusieurs milliers à chaque fois. Et je sais que le jour est proche. Les heures sont depuis longtemps passées. Le crépuscule est arrivé, mes amis. Et je veux faire le plus possible, car c'est le seul temps où vous et moi, nous serons des mortels. C'est le seul temps de toute l'éternité où nous aurons le privilège de gagner quelqu'un à Christ. Faisons-le. Faisons tout ce que nous pouvons. Employons chaque heure dont nous disposons pour sa gloire. C'est mon intention pour cette année qui vient, et avec l'aide de Dieu et vos prières, j'y arriverai. Ainsi, priez pour moi maintenant. Maintenant, inclinons nos têtes pour un moment, pour l'ouverture de sa parole. Père, c'est ta parole éternelle posée ici devant moi. Aucun homme dans le ciel ou sur la terre n'était digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux et d'y regarder, si ce n'est l'agneau qui fut immolé depuis la fondation du monde. Maintenant, nous l'invoquons et nous avons trouvé grâce devant toi. Nous prions, ô agneau de Dieu, que tu prendras ces quelques moments maintenant, pendant que nous tournons les pages de ta parole et l'ouvrons à nos cœurs. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je devais étudier pendant un petit moment cet après-midi sur un certain sujet pour ce soir. Mais je n'ai pas trouvé le temps de le faire. Ainsi, ma femme est venue avec Billy et je venais juste de commencer à tourner les pages de la Bible. Alors j'ai pensé, bien, je vais aller dans Melchisédek. Alors je pensais, oh, si je prends cela, les autres, les frères n'auront pas le temps de parler. Ainsi, je vais retenir cela pour un autre jour, le Seigneur voulant. Pour lorsque nous aurons beaucoup de temps. Alors j'ai trouvé le 10e chapitre des Actes qui parle de l'Église du début. Si quelqu'un le désire et a une Bible, tournez à Actes chapitre 10, seulement pour une petite exhortation de quelques moments. Pendant que vous tournez, je donnerai une petite récapitulation. Dimanche dernier, il y a une semaine, nous avons étudié dans le livre des Actes ce qui concerne la première Église. Nous étions à Actes 2, je crois. Où lorsqu'ils furent libérés et allèrent à leur... Pierre leur dit comment ils devraient se repentir et être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, j'aimerais vous démontrer une petite chose. Est-ce que tout est correct ce soir venant de l'estrade? Frère Neville dit « Amen », notre éditeur. Regardez, vous voyez, les gens disent toujours « Frère Bill, personne ne vous comprend ». Bien, je suis peut-être un petit peu bizarre, mais vous savez, ce n'est pas intentionnel. J'ai des idées sur les choses et mes convictions. Maintenant, je suis parfaitement convaincu que beaucoup de choses qui sont dans les Écritures, qui sont apostoliques, ne sont pas démontrées aujourd'hui. Par exemple, une chose, beaucoup de gens ont dit, comment se fait-il que lorsque vous êtes en réunion d'évangélisation, vous ayez 30 000 personnes à l'autel pour être sauvées? Ils n'ont pas besoin de venir à l'autel pour être sauvés. La seule chose qu'ils ont à faire est de croire au Seigneur Jésus. Amen. C'est vrai. Je vais vous demander quelque chose. Et réfléchissez-y cette semaine. Et la semaine prochaine, je prendrai vos lettres, voyez-vous. Je ne peux être un catholique. Mais les catholiques croient que cette parole est inspirée. Mais l'Église est au-dessus de la parole. Je ne puis être un protestant. Car les protestants prennent ce qu'ils pensent être correct. Et le reste n'est pas inspiré. Ainsi, je crois que ce que la Bible dit est la vérité. Je crois que c'est la parole de Dieu. Afin de croire cela, je dois y abandonner ma vie entière et ma volonté entière. Croire que c'est la vérité et qu'il n'y a pas d'autre vérité que cela. Il n'y a rien à y ajouter, rien à y enlever. Elle est exactement comme elle est supposée être. Quiconque enlèvera quelque chose à ce livre, ou y ajoutera quelque chose, son nom sera enlevé du livre de vie, dit Dieu dans l'Apocalypse. Quiconque enlèvera ou ajoutera ceci, Cela est la volonté entière de Dieu et la révélation de Jésus-Christ au peuple. C'est vrai. Maintenant, afin de faire cela, tu dois croire que la parole de Dieu est la vérité absolue. Et dans Actes 2.38, quand Pierre dit « Repentez-vous, chacun de vous », ils dirent « Hommes et frères, que pouvons-nous faire, premièrement ? Ils veulent être sauvés. Maintenant, surveillez, il parle ici à des incroyants. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit « Repentez-vous, chacun de vous ». Maintenant, que veut dire se repentir ? Se repentir veut dire regretter sincèrement ce que vous avez fait. Par exemple, qu'en est-il maintenant si je me tourne ici et je frappe mon frère sans raison et je veux m'en repentir? Je dirais, frère Neville, je regrette d'avoir fait cela, voyez-vous? Bien alors, si je dis, je regrette de l'avoir fait et que je le pense du fond de mon cœur, je suis repentant. Et si je regrette mes péchés et demande à Dieu de me les pardonner, je suis repentant. N'est-ce pas vrai? D'accord. Alors Pierre dit, repentez-vous ou regrettez vos péchés et alors soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? La congrégation dit, amen, de l'éditeur. D'accord. À la maison, quand Paul et Silas avaient eu une réunion, ils avaient été mis en prison et battus parce qu'ils avaient chassé un mauvais esprit d'un diseur de bonne aventure. Et lorsqu'ils étaient dans la prison des Philippiens, cette nuit-là, ils chantaient des cantiques et le Seigneur envoya un tremblement de terre et secoua tellement fort que les fers tombèrent de leurs mains. Le geôlier tira son épée pour se tuer. Et Paul dit, « Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. » Et il dit, « Ce qu'il pourrait faire pour être sauvé. » Il lui dit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ avec toute ta maison, de tout ton cœur, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Remarquez, « Crois au Seigneur Jésus-Christ. » Maintenant, si un homme regrette ses péchés, je veux seulement procéder tranquillement pour que cela pénètre réellement, profondément. Si un homme regrette ses péchés et se repent, ayant un réel regret pour ses péchés, et qu'il accepte Jésus-Christ comme son sauveur pour ses péchés, et qu'il est baptisé au nom de Jésus-Christ, Dieu est dans l'obligation, à cette minute même, de donner à cet homme le baptême du Saint-Esprit. S'il ne le fait pas, il ne peut, il n'a pas honoré sa parole. N'est-ce pas vrai? La congrégation dit « Amen », nom de l'éditeur. Maintenant, alors, pourquoi toutes ces réunions d'attente, de demande? Pourquoi devons-nous avoir ces évidences et autres? Or, Jésus dit dans Saint Jean 5:24, « Celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Maintenant, si la vie éternelle, que veut dire ce mot éternel? Cela signifie sans fin, « Celui qui entend mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie sans fin. » Pourquoi tous ces gens qui reviennent, essayant d'être sauvés de nouveau et ainsi de suite alors? Si vous avez la vie sans fin, vous ne pouvez périr. Votre vie ne le peut pas, car vous avez la vie éternelle. Maintenant, s'il y en a parmi vous qui veulent aller voir le mot, vous découvrirez que le mot grec qui est zoé, z-o-e, ce mot grec signifie la vie de Dieu. Parce que si c'est éternel, il n'y a qu'une chose qui soit éternelle, et c'est Dieu. Il est d'éternité en éternité, tu es Dieu. Maintenant, s'il est d'éternité en éternité, et qu'il vous a donné la vie d'éternité en éternité, alors vous devrez devenir une part de son être éternel. N'est-ce pas vrai? Et si vous devenez une partie de son être éternel, ceci fait de vous son fils ou sa fille, ce qui accomplit ce que l'Écriture dit, nous sommes fils et filles de Dieu. Est-ce vrai? Quand l'avez-vous eu? Quand vous avez crié? Quand vous êtes allé à l'autel? Quand vous avez parlé en langue? Quand vous avez cru? Nous en baptisons tellement qui ne croient pas. Nous en avons tellement qui parlent en langue et qui ne croient pas. Nous les avons poussés à des évidences. Nous avons fait des choses et nous les avons démontrées. Et dit, quand vous faites ceci, vous l'avez. Il n'y a rien dans la Bible, nulle part dans la Bible, que vous puissiez épingler à un homme parce qu'il fait ceci, il est un chrétien. Il est chrétien parce qu'il croit. Et sa propre vie porte les fruits de l'Esprit. qu'importe ce qu'il fait, voyez-vous? C'est cela. Maintenant, lorsque vous croyez, vous recevez la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Dieu. Et Dieu est le Saint-Esprit. Est-ce vrai? Si Dieu et le Saint-Esprit ne sont pas la même personne, Jésus avait deux pères. Jésus a dit que Dieu était son Père. Et la Bible dit que le Saint-Esprit était son Père. Ainsi, ils étaient tous les deux la même personne. Et si vous recevez Dieu, la vie éternelle est en vous. Alors qu'avez-vous reçu? C'est ce que je veux savoir. Vous comprenez l'idée? Nous sommes si pleins de théories. L'Église l'a été, car elle a été dénominationalisée, devenue une dénomination. Cette dénomination trouve ceci, ils croient cela, ils en font une dénomination. Ils ne peuvent aller plus loin que cela. Mais l'Église de Dieu est constamment en mouvement. Elle avance et abandonne les dénominations derrière elle. Elle s'éloigna de Luther, elle s'éloigna des méthodistes, elle s'éloigna des baptistes, s'éloigna des presbytériens, elle s'éloigne des pentecôtistes. Certainement, car la vie éternelle progresse. Elle avance, vous voyez, et vous l'avez. Pourquoi? Parce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il n'y a que deux choses. Regardez, vous êtes ou un incroyant ou un croyant. C'est le jour ou c'est la nuit. Est-ce vrai? Maintenant, je ne peux dire juste cette partie est la nuit. Seulement ce que je vois par cette fenêtre, c'est cela qui est la nuit. Non, non, c'est la nuit partout. C'est vrai. Maintenant, fume, comme j'ai souvent dit, fumer des cigarettes, chiquer du tabac, boire du whisky, cela, ce n'est pas le péché. Ce sont les attributs du péché. Vous faites cela parce que vous êtes un incroyant. Et vivre vertueusement, saintement et en paix, calmement et sagement, dans l'amour, être sociable et ainsi de suite, ce n'est pas parce que vous êtes chrétien, c'est seulement un attribut de la vie du chrétien. C'est parce que ce qui est en vous cause cela. Et si vous limitez, que vous le faites parce que vous êtes supposé être un chrétien, alors vous êtes un hypocrite, c'est vrai. Si votre vie n'est pas de douceur. Parce que en vous, quelque chose sort, cela le fait, cela vous fait vivre de cette manière. Vous aurez des épreuves, des troubles, des hauts, des bas, des mésententes. Cela n'a rien à faire avec cela. Quand Israël fut rétrograde et s'en alla en Égypte, ils rétrogradèrent. Ils ne perdirent jamais leur alliance. Ils perdirent la joie de leur salut. David n'a pas dit « Redonne-moi mon salut ». Il a dit « Redonne-moi la joie de mon salut ». Son salut devait rester le même, mais il s'égara du mauvais côté et perdit la joie de son salut. Voyez-vous ce que je veux dire? Quand avez-vous été sauvé? Quand avez-vous été sanctifié? Quand avez-vous été rempli du Saint-Esprit? Quand vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, car vous avez reçu là la vie éternelle. Mais alors, à partir de ce moment, vous avez commencé à grandir. Quand vous avez progressé dans la sanctification à travers le Saint-Esprit, le parler en langue et les autres choses, mais vous avez reçu la vie quand vous avez cru. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, ceci ne veut pas. Des personnes ont déjà la vie et vous essayez de leur faire faire quelque chose ici lorsqu'elles ne sont pas encore rendues au bon endroit. Les pentecôtistes ne sont jamais venus à l'endroit où se trouve l'Église maintenant, à l'adoption ou le placement des fils. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand un fils naissait dans une maison, il était un fils parce qu'il était né dans la maison. Mon fils est mon fils lorsqu'il est né de moi. Et lorsque l'Église pentecôtiste a donné naissance, ou découvert ce qu'ils appellent la naissance, la nouvelle naissance, ou l'Église du Saint-Esprit, qu'ils étaient nés dans le royaume de Dieu, eh bien maintenant dans l'Ancien Testament, maintenant dans Éphésiens, le premier chapitre, cela dit, nous sommes prédestinés à l'adoption en tant que fils, à l'adoption de fils. Regardez cela, l'adoption de fils, oui monsieur. Et un homme dans l'Ancien Testament, lorsqu'un fils naissait dans sa maison, il était un fils à sa naissance, mais il avait un tuteur pour l'élever jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge. Alors si le tuteur donnait sa parole au père que cet enfant était digne et correct, et tout le reste, maintenant il était alors adopté dans cette famille. Beaucoup d'entre vous qui lisez l'Ancien Testament ne connaissez pas les Écritures sur cela. Il était adopté dans la famille, mais s'il ne l'était pas, il demeurait tout de même un fils, mais il n'était pas adopté. Et alors s'il était adopté, Il était amené à l'extérieur sur la rue. On lui mettait une robe et il y avait une cérémonie. Alors la signature du garçon sur le chèque signifiait la même chose que celle de son père. Juste la même chose, car il était adopté dans la complète fraternité de la famille. Dieu adopta son propre fils lorsqu'il le prit avec lui. Il prit Pierre, Jacques et Jean comme témoins, car par la parole de deux ou de trois témoins, que chaque parole soit confirmée. Ils montèrent là-haut, et Dieu couvrit le Christ de son ombre. Le Saint-Esprit couvrit Christ de son ombre, et son vêtement brillait comme le soleil. Est-ce vrai? Et Dieu lui-même dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » En d'autres termes, voici ce qu'il a dit et tout ce qu'il y a à dire. Alors, il avait égal, et naturellement, il était Dieu. Mais Dieu, dans la chair de Jésus-Christ, se manifestant lui-même au peuple. Et là, Dieu adopta son propre Fils. Et maintenant, quand l'Église pentecôtiste et ses gens, dans les derniers jours, ont commencé à voir la nouvelle naissance, être nés de nouveau, ils crurent que c'était terminé. Non, monsieur, vos hauts et vos bas, vos va et vient et toutes les choses comme cela. Dieu ne peut pas vous accepter comme fils. Mais quand vous demeurez dans le royaume, dans l'Évangile, demeurez correct, un de ces jours, Dieu va vous appeler et vous mettre à part, vous adopter comme son fils devant les gens et vous donner quelque chose qui va secouer les nations. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est l'adoption dans la famille. Maintenant, ceux qui l'ont suivi, Pierre, Jacques et Jean, nous parlons ce soir de Pierre, une grande vision, comment ces hommes vivaient en ce jour-là. Et maintenant, premièrement ici, au 20 ou le 32e verset du chapitre précédent, le 9e chapitre, « Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Et Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Surveillez cela. Regardez ce qui est arrivé. Tous les habitants de Lydde et de Saron, surveillez ceci, se convertirent au Seigneur. Parce qu'un homme qui avait la paralysie fut guéri, tous les habitants du pays se tournèrent vers le Seigneur, car un paralytique avait été guéri. Et aujourd'hui, un mort est ressuscité. Et les gens disent, c'est du diable, c'est de la psychologie, c'est de la télépathie mentale. La personne n'était pas morte pour commencer. Vous voyez la différence? C'est notre indifférence envers Dieu qui a déterminé ce que nous recevons aujourd'hui. Nous allons subir le jugement divin. Le monde entier est secoué présentement sous l'impact de jugement à donner la chair de poule. Un des ministres va probablement le comprendre dans quelques minutes. C'est jugement qui arrive. Et j'espère qu'ils le font de toute manière sur le jugement qui vient. Parce que le monde entier est prêt, il frissonne. Toutes les nations tremblent. N'allez pas penser que la Russie ne tremble pas. Les États-Unis et les îles tremblent. Qui va lancer cette première bombe atomique? Lorsqu'il le fait, cela peut jeter tout dans le déséquilibre et ne pas être une bombe au cobalt. Qu'en serait-il s'ils en laissaient partir une couple par inadvertance? Il ne resterait même pas une mouche ou un insecte sur la face de la Terre. C'est au moment présent, dans les mains des méchants, des pécheurs, des hommes promis à l'enfer. Et votre destinée de ce voyage terrestre, je dis voyage terrestre, est laissée entre les mains de dépravés et d'hommes pécheurs. Vous êtes mieux de savoir quelle est la destination de votre âme. Si elle n'est pas destinée au ciel ou à Dieu, tournez-vous ce soir de tout votre cœur et ne laissez pas finir l'année sans vous tourner vers Dieu. Car votre voyage terrestre est entre les mains des méchants, cruels au cœur de glace, des athées. C'est ce à quoi votre corps terrestre est destiné. Quoi qu'il décide de faire, cela est final pour vous. Que Dieu soit miséricordieux. Et Dieu, dans son aimable miséricorde, envoie des signes et des merveilles et des miracles et autres, et prêche l'Évangile, et les gens détournent constamment leur face de lui. Alors, comment pouvez-vous espérer autre chose que le jugement? Vous devez le recevoir. Et un homme est guéri de paralysie, et tout le pays se tourne vers Christ. Et ici nous avons des rois, des potentats, des monarques, des membres du congrès, et des gens de toutes sortes, des affligés, des malades sont guéris, des morts reviennent à la vie. et la nation méprise cela et en rit. Alors que nous reste-t-il si ce n'est le jugement? Oh frère, s'il n'y a jamais eu un temps pour Dieu de réveiller son peuple, c'est aujourd'hui. Cette année qui arrive, puisse Dieu oindre ses ministres comme des flammes de feu, car vous êtes dans les derniers temps, au temps de la fin. Regardez ici ce même homme qui vient. Il y avait une fille nommée Tabitha, ce qui veut dire Dorcas. Elle mourut pendant qu'elle était là, et Pierre était à Joppé. Et ils l'envoyèrent chercher et l'amenèrent là. Et il entra dans la pièce où était le corps, il fit sortir tout le monde, s'agenouilla et pria. Et lorsqu'il fit cela, il s'approcha, prit sa main et la releva, et elle reprit vie. Et regardez ce qui se passa. Et il arriva qu'il resta plusieurs jours, juste avant cela. Et cela fut connu de tout Joppé, et plusieurs crurent au Seigneur. Plusieurs crurent. Et aujourd'hui, ils disent, je me demande si elle était vraiment morte. Elle était juste dans le coma ou quelque chose comme cela. Je ne crois pas à de telles choses. Ils expliquent le tout. Lorsque vous élucidez le surnaturel hors de la Bible, vous élucidez le même Dieu que vous adorez. Certainement que vous le faites. Il est un Dieu surnaturel. D'accord? Maintenant, mais arrêtez ces apôtres. Frères, ils avaient été avec Jésus. Ils ne portaient pas attention à ce que n'importe qui disait. Ils les appelèrent un jour et leur dirent que les jours des miracles étaient passés. Ils les battirent de verges et les mirent en prison et les gardèrent toute la nuit. Et le matin suivant, ils les jugèrent. Et ils se rendirent compte qu'ils étaient ignorants et sans instruction. Mais ils apprirent d'eux qu'ils avaient été avec Jésus. Étant libérés, ils ne retournèrent plus consulter leur séminaire. Ils retournèrent à leurs gens. Lorsqu'ils se rencontrèrent, expliquant ce que le Seigneur avait fait, ils se réunirent et ils firent cette prière. Seigneur, pourquoi ont-ils est accompli ce qui avait été dit par le prophète, naturellement? Pourquoi les païens sont-ils en rage et le peuple imagine-t-il des choses vaines? Ils dirent vraiment, donne-nous la puissance en étendant la main de ton saint enfant Jésus pour guérir les malades et que des signes et des merveilles puissent se produire. Et quand ces gens eurent prié comme cela dans un seul accord dans cet endroit, l'édifice fut ébranlé où ils étaient réunis ensemble. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est une prière commune, une réunion de prière où nous nous lions ensemble avec un tel cœur et un tel accord, et que nous fassions une prière comme cela, alors nous aurons une autre période de secousse. Amen. Remarquez Pierre qui une fois avait renié le Seigneur, qui une fois n'avait pas cru en lui ou l'avait renié. Il était sorti, avait pleuré amèrement et il était revenu. Maintenant, il avait reçu le Saint-Esprit. Écoutez-le prêcher. Il y avait un homme du nom de Corneille, un centurion du groupe appelé le groupe italien, un homme dévoué que lui et sa maison craignaient Dieu. Il faisait l'aumône et priait Dieu toujours. Quel homme! Maintenant, souvenez-vous, même pas un juif, il était un gentil, un centurion, une centurie plus de 100 hommes, mais il était un homme qui craignait Dieu. Dieu a toujours parmi les gentils des hommes qui le craignent. En marchant aujourd'hui, je parlais avec un jeune homme. Je dis, lorsque j'arriverai au ciel, une chose que je voudrais faire, ce serait de marcher vers quelqu'un qui aurait fait une chose noble et lui serrer la main. Et il parla de la personne qu'il voudrait voir. Il voulait lui serrer la main, lui parler de différentes choses et de comment Dieu a béni le peuple. Quand Uri, après que David eut pris sa femme Bathsheba, lorsqu'ils l'envoyèrent chercher, et elle allait être mère, et ils l'amenèrent, afin de pouvoir imputer cela à Uri. Et il n'était pas un gentil, il était un Éthien, un prosélyte pour la religion juive. Et ils lui dirent de descendre et de demeurer quelque temps chez lui, avec sa jolie et aimable femme. Il dit que Dieu me préserve de faire une telle chose avec l'arche de mon Dieu sur le champ de bataille. Et il refusa de le faire. Et frère, lorsque j'arriverai dans la gloire, je veux m'avancer vers Uri et lui serrer la main et dire, Dieu soit loué pour ton témoignage. Cela a été d'une grande signification pour moi dans mon voyage terrestre. Je veux m'avancer vers Daniel et dire, tu sais Daniel, lorsque tu es allé sans crainte vers ces lions, ce témoignage a eu une grande signification pour moi. Oui, monsieur. Je veux voir l'apôtre Pierre et lui dire, Pierre, cette nuit-là, quand tu étais en prison,
et que le Seigneur vint avec une grande lumière et t'illumina. Oh, j'ai toujours admiré cela. Et tu t'es mis à suivre cette lumière, et les portes s'ouvrirent devant toi jusque dans la rue. Tu pensais que tu rêvais. Quel événement! Il n'y aura pas de place tranquille dans le ciel lorsque tous ces rachetés se retrouveront là, n'est-ce pas? Ce sera une chose merveilleuse qui se passera là, quand tous les rachetés entreront là. Et voilà ce centurion, la maison de Corneille. Regardez comment Dieu a arrangé les choses. Maintenant, Corneille était un homme qui craignait Dieu. Il a toujours prié et fait l'aumône aux gens. Vous n'avez jamais rien fait d'important que Dieu n'a pas porté à votre crédit, c'est vrai. Et il pria et fit l'aumône aux gens, et il fut un grand homme. Et un jour, qu'il était en prière dans la maison, voici qu'arrive un ange dans la pièce. Croyez-vous aux anges? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. L'ange vint dans la pièce où il était et lui dit, Corneille, lève-toi et va à Joppé et demande à un dénommé Pierre qui habite dans la maison d'un homme appelé Simon et il te dira quoi faire. Amen. Maintenant Pierre à ce moment-là, Pierre ayant voyagé eut faim, c'était autour de midi. Aussi, il monta sur le toit de la maison et fit une petite sieste. Il allait dormir pendant qu'il était là-haut et qu'on lui préparerait à dîner. Et ainsi, Corneille envoya quelqu'un. C'est un soldat, deux hommes dévoués, et il les amena rechercher Pierre. Et pendant Dieu, s'il envoie quelqu'un vous voir, il fait des arrangements auparavant pour que cette chose se produise. Il fit les arrangements à l'hôpital pour ce bébé hier, ce bébé qui se mourait et personne ne savait ce qu'il avait. Et le Saint-Esprit parla dans la chambre, fit des arrangements à l'hôpital pour la guérison du bébé, même avant que je n'y arrive. En Finlande, quand ce petit garçon était étendu mort sur la route, et son père et sa mère revenant des champs à la course et en criant et se tordant les mains, Dieu avait arrangé d'avance sa résurrection, 2 ans d'avance. Louanges à Dieu! Et ce soir, pendant que nous sommes ici dans cette église et souffrons les choses comme nous le faisons, Dieu a préparé d'avance notre résurrection. Un de ces jours glorieux, il viendra. C'est tout préparé d'avance. Et les hommes et les femmes qui y pensent, une fois le poète a chanté cette chanson, « Oh, il y aura une rencontre dans les airs. » Il y a environ 15 ans ce soir, je me tenais sur cette estrade avec un gros tableau enseignant. Et il y avait un petit groupe pentecôtiste venu de Louisville. Et je n'avais jamais cru à la manière de danser de ces gens comme ils le faisaient. Et voici qu'une petite dame s'avance ici pour jouer au piano. Et ils allaient faire un spécial et frapper sur un petit... frotter une planche à laver avec un dé à coudre et d'autres frapper sur une boîte de conserve. J'étais très critique à ce sujet. Je pensais, qu'est-ce qui va se passer? Et la femme s'avance pour jouer le spécial. Elle commence à jouer. La dame commence à frotter la planche à laver. Et cette petite fille blonde saute sur le plancher et commence à danser dans l'esprit. Et moi, assis là, dédaigneusement, je dis, maintenant je souhaiterais que vous puissiez voir cela. Et après ce que j'avais dit à mon église, il se demandait ce que j'allais faire à ce sujet. Je continuais à la regarder, je pensais, regardez-moi cela. Si ce n'est pas quelque chose, faire une taverne de mon église. Et j'étais assis là, ne connaissant rien de mieux. Je ne disais rien, mais dans mon cœur, je n'en pensais pas moins. Ainsi, je la regardais pendant qu'elle dansait. Soudain, je pensais. Maintenant, une minute, je me demande si cette dame a une écriture sur cela. Et je commençais à réfléchir sur les écritures. Je me dis, quand la danse fut-elle ordonnée la première fois dans la Bible? C'est vrai. Je pensais, qu'est-ce qui les a fait danser? J'ai vu que les enfants d'Israël, lorsqu'ils traversèrent la mer Rouge, Myriam regarda en arrière et vit ses combattants noyés. Elle attrapa un tambourin et se mit à danser et battit le tambourin et courut d'un bout à l'autre de la plage en dansant. Et les filles d'Israël la suivirent en dansant. Et je pensais, qu'est-ce qui les fit danser? J'ai vu que David, quand sa petite bien-aimée, assise là derrière son éventail, s'éventant, regardant son beau petit ami, David, debout là-bas, et voici que l'arche, celle dont Frère Graham a parlé plus tôt, arrive traversant la colline. Lorsqu'il la vit venir, il se mit à danser et danser et danser. « Quoi ? » dit-elle. « Tu m'as mis dans l'embarras. » Il dit, « Si tu n'as pas aimé cela, surveille bien ceci. Et il dansa et dansa et dansa de nouveau. Vous savez quoi? Dieu regarda du ciel et dit, David, tu es un homme selon mon cœur. C'est vrai. Et je pensais, vous savez, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Je n'ai pas eu assez la victoire, peut-être. Et je restais assis là, et mon pied méthodiste suivant la musique. La première chose que j'ai su, Dieu est mon juge. Avant que je m'en aperçoive, j'étais là sur le plancher avec elle, dansant avec cette fille, c'est vrai. Alors je dis, Seigneur, enlève-moi du siège des méprisants. Laisse-moi regarder les choses avec bon sens avant de passer un jugement à l'avenir. Amen. Dieu fait de curieuses choses. Je ne crois pas en toutes sortes de stupidités. Je ne crois pas dans les niaiseries. Mais je crois dans la parole de Dieu, vraie, authentique, remplie de l'Esprit, prêchée avec puissance et démonstration par le Saint-Esprit. Amen. Car c'est ce qui m'a sauvé. C'est la chose qui m'a amené jusqu'ici. C'est la chose qui m'a aidé lorsque le docteur m'a dit que j'étais mourant. C'est la chose qui m'a sauvé. À l'heure de ma mort, c'est la chose qui me ressuscitera. Et c'est la chose avec laquelle j'irai au ciel, si jamais j'y vais. Je devrais marcher par cela, car je ne connais rien d'autre que cela. C'est vrai. Connaître Jésus, qu'il a été crucifié, et c'est tout. S'il est crucifié, alors cela crucifie ma chair avec la sienne, et je suis mort aux choses du monde. Quoi? Amen. Vous savez, je deviens religieux. Je commence à me sentir comme cela. Remarquez, ils étaient là. Quel bon temps. Ils avaient une rencontre merveilleuse. Et Corneille dit, maintenant, vous allez là-bas et demandez le dénommé Pierre. Il dit, je n'ai jamais entendu parler de lui avant. Et Pierre, sur le toit, pensa, Seigneur, je ferai une petite sieste juste avant de dîner. J'ai si faim et suis si fatigué. Et lorsqu'il s'étendit là, il tomba en transe. L'Écriture le dit. Alors je crois qu'il tomba en transe, pas vous? Et lorsque cela arriva, il vit une nappe descendre du ciel, pleine de toutes sortes de choses qui bougeaient. Une voix dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Il dit, « Non, Seigneur, je suis juif. Rien d'impur ou de mauvais n'est entré dans ma bouche. » La voix dit, « N'appelle pas impur ce que j'ai fait pur. » Elle dit, « Lève-toi. » Elle dit, « Il y a quelqu'un qui t'attend à la barrière. Et vas-y, ne doute pas, suis-le. » Amen. Or, Pierre et ses manières dévotes, vous savez, il avait un certain prestige avec les gens et devait surveiller ce qu'il mangeait. Il était un juif, il avait été élevé en rigide presbytérien, vous savez, ou quelque chose comme cela. Il devait surveiller ce qu'il faisait à cause de sa relation avec l'Église. Alors le Seigneur lui dit, tu suis, c'est gentil, en ne faisant pas attention à ce qui se passe ou autre. Tu vas là-bas. Et lorsqu'il monta l'allée de la maison de Corneille. Corneille assembla tous ses gens. Il lui dit comment il avait vu l'ange du Seigneur. Il dit, maintenant, Pierre, je t'ai envoyé chercher. Et lorsque Pierre fut là et commença à prêcher, pendant que Pierre disait ces paroles, le Saint-Esprit tomba sur eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à prophétiser, à parler en langue et à avoir un merveilleux temps. Il dit, pouvons-nous interdire l'eau? Maintenant, ils ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et Pierre demeura avec eux quelques jours. C'est l'Église apostolique avançant dans l'Esprit où Dieu le lui dit. Pierre se passa de dîner. Pierre partit pour suivre le Seigneur. Et Dieu ne peut avoir un homme ou une femme aujourd'hui dans ce tabernacle ou ailleurs qui ne ferait pas attention à ce qui se passe autour d'eux, mais se soumettrait au Seigneur en tant qu'individu. Dieu conduira le même homme aujourd'hui qu'il l'a conduit alors. Il l'a prouvé. Il est avec nous. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une vie humble et soumise. Soumettez-vous. Ne vous retenez pas. Ne faites rien si ce n'est de vous aligner directement sur le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit dit, faites-le rapidement. Ne dites pas, je vais attendre pour savoir ce qu'est ceci ou cela. Ce que le Saint-Esprit dit de faire, allez le faire. Quand serait-il? Si je n'étais pas allé en Finlande, quand le Saint-Esprit m'appelait là-bas. Quand serait-il? Si je n'étais pas allé à l'hôpital hier, où ce petit bébé était couché mourant, si je n'étais pas allé. C'est l'obéissance est supérieure au sacrifice. faites ce que le Saint-Esprit dit de faire. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est d'abandonner nos petites idées étroites et de laisser le Saint-Esprit. Vous êtes enseigné ici, vous savez ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais ce dont vous avez besoin ce soir, c'est un gros paquet de l'amour de Dieu déversé dans vos cœurs et tous les différents enlevés, effacés. Enterrez cela avec la vieille année pendant qu'elle s'en va. Laissez cela aller. Commencez une nouvelle vie, un recommencement. Vous ne pouvez, si vous êtes déjà dans le royaume de Dieu, vous avez déjà en vous le Saint-Esprit. La seule chose à faire, c'est de vous débarrasser des choses du monde qui vous retiennent. Il dit, permet que nous laissions de côté tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et que nous puissions courir avec patience dans cette vie la carrière qui est devant nous. Hébreux chapitre 12, verset 1. Abandonnons tout fardeau. Pouvez-vous imaginer les mages qui venaient pour voir Jésus? Je vais vous donner simplement un petit drame pendant quelques minutes. Je puis voir, ils disent trois hommes sages. Disons qu'ils étaient trois, Jim, John et George, c'était leur nom. Et ils viennent voir Jésus, et je peux les voir se préparer. Prenons le dénommé Jim, c'est tout un homme. Il court dire à sa femme, « Femme, sais-tu quoi? J'ai vu une étoile, alors je dois partir. » Et alors il s'en va, emballe ses affaires pour partir. C'est ce qui est le problème avec les gens aujourd'hui. Ils essayent de se préparer à être chrétiens. S'il y a quelque chose dont vous avez besoin pour être chrétien, c'est de déballer. Vous avez trop de choses d'accrocher sur vous maintenant. « Mom, dit-il, maman, je ne puis aller si je n'apporte pas ma table à cartes. » Alors il met la table à cartes sur le chameau. Parce que vous savez, les autres garçons n'apprécieraient pas si j'y allais sans ma table à cartes. Toutes ces autres petites vieilles choses qui vous retiennent. Et vous avez une petite boîte d'égoïsme à apporter aussi. Et vous devez apporter quelques commérages et de la médisance. Et un peu de ceci, un peu de cela. Accrochez tout cela au chameau. Et la première chose que vous savez, il enfourche le chameau et dit, nous y voilà, allons-y. Le vieux chameau ne peut presque pas bouger. Il est tellement chargé qu'il a quasi les pattes en arceau. Et vous plaignez et critiquez votre église où vous allez. C'est que peut-être vous l'avez tellement surchargé qu'elle ne peut plus avancer. C'est là que le problème. Vous avez besoin de délester, nettoyer, enlever, redresser. Amen. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Remarquez, c'est cela la cause. Je peux voir aller les autres avançant. La première chose que vous savez, il est descendu à regarder cette étoile de nouveau, et alors il a jeté une table d'un côté, des paquets de l'autre. Sa femme dit, où vas-tu, John? Il dit, je mets de côté tout ce qui si facilement m'enveloppe, car je dois faire cette course avec patience, car la barrière est petite et étroite et la voie, mais peu nombreux seront ceux qui la trouveront. Il n'y a de place que pour vous et Jésus. Personne d'autre ne peut passer. Amen. Je peux l'entendre. Bien, regarde, tu oublies ta boussole. Je n'ai pas besoin de boussole. Tu oublies ton diplôme du séminaire. Tu oublies ton baccalauréat de ceci et cela et toutes ces autres choses auxquelles tu t'accroches. Il dit, je n'ai besoin d'aucune boussole. Comment feras-tu alors? Il pointa son doigt vers l'étoile et dit, « Je vais de la manière prévue par Dieu. Dieu m'a fourni une étoile à suivre. Elle me conduira à Christ. » Et quelle nuit! Nous n'avons pas besoin de grandes et longues études. Nous voulons suivre la voie prévue par Dieu. Et la voie prévue par Dieu en ce jour est le baptême du Saint-Esprit. Et les fils de Dieu sont dirigés par le Saint-Esprit. Ceci vous amènera à votre destination. Abandonnez les fardeaux, abandonnez tout le reste, retournons aux jours apostoliques. Notre fondement est sûr. Dieu nous l'a prouvé par des signes, des merveilles, des photographies et toutes sortes d'autres choses. Il a prouvé qu'il est avec nous. Et autour du monde, ce glorieux et puissant évangile a balayé 1 500 000 âmes dans le royaume de Dieu l'an dernier. L'église pentecôtiste a eu du succès avec toutes ces églises dans le monde en conversion. 1 500 000 enregistrés. Alléluia! Que se passe-t-il? C'est la chose la plus puissante qu'il y a sur la terre aujourd'hui. Mais le démon est entré parmi eux et les a divisés en petits groupes et les a fait se quereller l'un avec l'autre. S'ils avaient oublié leur égoïsme et leurs différends et s'étaient joints ensemble, leurs cœurs ensemble, le millénium serait déjà commencé. C'est ce dont nous avons besoin ce soir, mes amis, de nous unir. C'est ce que le Branham Tabernacle doit faire. C'est ce dont toutes les églises ont besoin, se réunir dans une grande fraternité comme un seul individu en Jésus-Christ. Un né de nouveau, marcher dans ce sentier droit, regardant à celui qui est l'auteur et le finisseur de notre foi, Jésus-Christ. Regardez ici, ne prenons pas pour notre tabernacle et ses doctrines et tout cela, mais je dis ceci, mes chers amis, cherchez dans le monde, n'importe où vous voulez, et nous disons ceci avec vanité, pas se vanter en rien, si ce n'est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais regardez ce que Dieu a fait pour cette petite église. Retournez-vous et regardez si vous le désirez. À partir de cette petite église ici, est parti ce grand réveil qui a balayé le monde entier. Et c'est vrai. Regardez à cela et voyez si ce n'est pas la vérité. Dieu est avec nous, dans son amour et sa miséricorde. Regardez comment il nous guérit lorsque nous sommes malades. Regardez ces cas de cancéreux, d'aveugles, de sourds et de muets, et toutes ces autres choses qu'il guérit parmi nous partout. Alors il nous aima assez pour venir donner une preuve scientifique, pour mettre son sceau sur l'Église et avoir sa photo prise avec nous. Amen. C'est là que les critiques vont devoir se fermer la bouche, se reculer et dire « Je ne puis rien dire là-dessus. » Amen. Je suis si heureux ce soir que je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux d'être un chrétien. Je suis si heureux de vivre ici parmi ces gens qui croient dans ce grand mouvement. Je m'attends à des petites différences. Nous sommes humains. Mais en principe, nous sommes un. C'est vrai. Nous sommes un. Ensemble, nous nous tenons comme une unité en Christ. Dieu nous a bénis et nous a donné des choses merveilleuses. Pensez seulement comment je ne pourrais pas être ici par moi-même ce soir si ce n'eût été du Seigneur. Quand les meilleurs docteurs dirent que je ne pourrais survivre. Mais le chef des docteurs vint et dit, c'est dans mes mains, tu vas y arriver. Je l'ai cru. Comment se porte Sir Weaver assise là? Comme un squelette assis dans une chaise roulante lorsqu'ils l'ont amené ici pour être baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Les docteurs lui avaient donné jusqu'au matin à vivre. Elle avait un cancer qui la dévorait il y a 6 ou 7 ans. Elle est encore avec nous ce soir. Combien d'autres je pourrais rappeler qui sont entrés et sortis par ces portes, qui sont venus ici infirmes, affligés, malades, aveugles, boiteux, estropiés et tout le reste, et qui ont été guéris juste par cette seule petite porte comme un témoignage de la résurrection de Christ. Que devrions-nous être? Que devrait être ce Branham Tabernacle? Il devrait être un phare qui est situé dans la place la plus sombre du monde, Jeffersonville. S'il n'y a jamais eu une place qui avait besoin de l'Évangile, c'est Jeffersonville, c'est vrai. Mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Il dit, viens et vois, c'est vrai. Les points noirs, nous n'avons pas besoin des lumières pendant le jour, nous en avons besoin lorsqu'il fait nuit. C'est là que Dieu envoie la lumière, dans les endroits sombres. C'est très difficile, facile d'aller où tout fonctionne bien, mais où tout est difficile, dans les endroits sombres, les places dures. Est-ce que je dois être conduit au ciel sur un lit de fleurs, pendant que d'autres combattent pour gagner le prix et voguent sur une mer sanglante? Juste ici, où les gens coupent les cheveux en quatre, où il y a des différends et autre chose comme cela, 140 000 païens meurent chaque jour et vont rencontrer Jésus, ou vont rencontrer un honnête et juste Dieu en ne sachant rien de lui. 140 000 meurent chaque jour. La quantité de païens qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus-Christ meurent chaque jour. Et nous argumentons à savoir si nous sommes presbytériens ou méthodistes. Quelle disgrâce! Quelle honte! Ce dont nous avons besoin est une vision. Pas regarder ici au bout de notre nez. Regardez là-bas, au bout de la route. Si je pense à aujourd'hui, ceci, cela et cet autre, je vivrai pour le jour. Mais je vis pour l'éternité, pour quelque chose au loin là-bas, pour quelque chose que Dieu a ordonné et que je dois aller rencontrer un jour. J'ai pris trop de temps, 10 minutes, espace non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Par la grâce de Dieu et l'aide de Dieu, il y a 2 ans que je lui ai demandé quelque chose encore et encore. Je lui ai demandé pendant 15 ans quelque chose et il me l'a finalement donné. Et je frapperai à sa porte si je suis vivant l'an prochain, s'il ne me le donne pas cette année, vous voyez, car cette chose que je lui ai demandé, c'est pour sa gloire, quelque chose que je ferai pour lui là-bas au loin. S'il me le permet, alors je pourrai aller au loin, aller gagner des âmes pour lui, un peu mieux, être un peu plus fort dans cette voie, et je prie qu'il le fasse. C'est ma prière à lui. Et mon témoignage pour vous, que si vous priez pour moi et me soutenez devant lui en prière, alors je peux continuer. Comment puis-je faire une chose, peu importe ce qui arrivera, si je n'ai pas quelqu'un qui me croit? Vous êtes juste autant dans cela que je le suis ou que quelqu'un d'autre peut l'être. Vous en faites autant partie. Peu importe ce que nous ferions, je prêcherai ce que nous dirions. S'il n'y a personne pour le croire, alors il n'y a rien qui puisse se faire. C'est vrai. Ce serait un échec. On ne peut rien y faire, excepté si nous nous unissons et que nous croyons les uns les autres. Je crois en vous, vous croyez en moi, et tous ensemble nous croyons en Dieu, et nous croyons que son Saint-Esprit va nous diriger. Maintenant, frère Funk, est-ce que tu t'avances? Tu tiens le bébé maintenant, c'est ton excuse. Frère Wood, je suppose que tu es le suivant alors. Frère Wood dit, frère Jackson, d'accord, et il a adopté frère Jackson. Ainsi, je suppose que frère Jackson est le suivant. Le Seigneur bénisse notre frère Jackson. Qui vient ensuite? Le Seigneur vous bénisse. Et aimez-vous le Seigneur? Je veux voir vos mains. Aimez-vous le Seigneur? La congrégation dit amen, notre éditeur. D'accord. Sir Gertie, venez ici juste une minute. Je veux que vous en chantiez une avec moi. Tout le monde chante. Je vais essayer. Je suis enroué au possible, car j'ai un mauvais rhume, mais je... quelque chose, ma tête, mais je veux que vous m'aidiez à chanter ce bon vieux cantique. Et donnez-moi la note, quelque, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas ce que c'est. Donnez-moi simplement une note, car je veux chanter. C'est trempé de sang avec vous tous, car cet évangile que je prêche est trempé de sang. Ne le croyez-vous pas? La congrégation dit amen de l'éditeur. D'accord, tout le monde ensemble maintenant. Le premier à mourir pour ce plan du Saint-Esprit fut Jean-Baptiste, mais il mourut comme un homme. Alors vint le Seigneur Jésus, ils le crucifièrent. Il prêcha que le Saint-Esprit sauverait l'homme du péché. Écoutez bien ceci maintenant. Il y a des âmes sous l'autel criant combien de temps? Levons-nous maintenant. De là coule le sang. Oui, de là coule le sang. N'êtes-vous pas heureux d'être l'un d'entre eux? La congrégation dit amen de l'éditeur. Quel genre d'évangile? Le même évangile qui leur fut donné, les mêmes signes suivis des mêmes merveilles, la même colonne de feu, le même Seigneur Jésus, la même guérison des malades, la même puissance de l'Esprit, toutes choses avançant dans l'ordre. La même persécution s'en vient. L'évangile du Saint-Esprit, d'où coule le sang. Tous ensemble maintenant, de là coule le sang. Retournez-vous et donnez la main à quelqu'un et dites « Louange à Dieu, coulant de sang, alléluia, n'êtes-vous pas, louange au Seigneur, amen, de là coule le sang, oh comme j'aime Jésus. » Chantons-le plus fort maintenant, levez vos mains, oh comme j'aime Jésus. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir pour le Seigneur Jésus-Christ, pour sa puissance, pour son amour, pour savoir en ce noble et grand jour dans lequel nous vivons, que quand les prophètes anciens ont vu ce jour et ont donné ce commandement concernant ceci, que les hommes deviendraient élevés, hautains, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant une forme de piété mais reniant ce qui en fait la puissance. Quand il a dit, il y aurait des moqueurs dans les derniers temps qui se moqueraient, ridiculiseraient, et nous vivons dans ce temps, Père. En ce jour, les voitures courraient rageusement dans de larges voies, elles courront comme l'éclair, elles ressembleront à des torches, toutes ces grandes prophéties se réalisent. quand Jésus a dit, les vagues de la marée se briseront sur les rivages et de haut en bas des berges de la mer, et quand les grands signes et les merveilles apparaîtraient là-haut dans le ciel, comme les soucoupes volantes et le reste, à cause de ces signes, le monde sera dans la crainte et tremblera. Cela causera des tremblements de terre à divers endroits et toutes sortes de choses, des temps de confusion et de détresse entre les nations. Et il a dit, c'est en ce jour qu'Israël fleurira. Alléluia! Cette vieille étoile à six pointes de David flotte au-dessus de Jérusalem pour la première fois en 2500 ans. Les nations se brisent. Le figuier pousse des bourgeons. Tous les autres arbres commencent à faire des bourgeons. Le printemps arrive. Les méchants produisent des bourgeons. Le romanisme fait ses bourgeons. Le communisme produit aussi ses bourgeons. Et ton église bourgeonne aussi. Le printemps arrive. Ô grand maître de la vie, lève-toi avec la guérison sous ton aile, Seigneur, et donne à tes serviteurs toutes les puissances et les signes pour étendre la main de ton saint enfant Jésus, pour accomplir des miracles, donner des signes, prêcher l'évangile jusqu'au bout du monde. Accorde-le, Seigneur. Bénis cette petite église. Bénis son pasteur, Seigneur, notre cher frère. Bénis tous ceux qui se sont associés avec nous, tous ceux qui invoquent ton nom partout dans le monde. Aide-nous pendant cette nouvelle année, Seigneur. Aide-nous à être le mieux possible à ton service. Éloigne de nous la maladie, éloigne-nous de ton Saint-Esprit. Protège-nous de l'envie, de la jalousie, des conflits et de toutes les choses qui ne sont pas de toi. Et qu'il soit dit de nous que nous sommes tes enfants. Une ville située au sommet de la colline ne peut être cachée. Accorde-le, Père. Bénis-nous et pardonne-nous notre passé. Et puissions-nous dire comme Paul, oubliant ces choses qui sont du passé, nous nous pressons à cause de ce grand appel de la vocation céleste en Jésus-Christ. Seigneur Dieu, envoie-moi où tu voudras. Je suis prêt à y aller. Propose ton choix n'importe quand. Pardonne-nous, je te le demande de nouveau, et sanctifie cette église pour l'honneur de ton nom et ta gloire avec les gens qui s'y trouvent. Car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Le Seigneur vous bénisse. Il y aura une rencontre dans les airs, dans la douceur de l'au-delà. Je vous rencontrerai là-bas, dans la maison, par-delà le ciel. Ne l'aimez-vous pas? La congrégation dit Amen, nom de l'éditeur. Oh, il y en a un que je veux rencontrer par-dessus tout, c'est Jésus. Pas vous? Amen, dit l'assemblée, nom de l'éditeur. Cela nous réjouit tellement, nous fait sentir si purifiés. Ne vous sentez-vous pas de cette manière-là? Juste comme si vous aviez été récuré, juste l'aimer. Rencontre dans les airs, dans la douceur de l'au-delà. N'aimez-vous pas cela? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Oh, vous connaissez Moïse dans les joncs. Vous connaissez le David sans peur et sans fronde. Oh, je veux seulement être là. Et vous? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Combien disent, par la grâce de Dieu, je veux être là, par la grâce de Dieu. Amen, dit l'Église, notre bel éditeur. Louange au Seigneur. D'accord, frère Neuville. Heureuse nouvelle année à vous tous. Dieu vous bénisse.